Et vous écoutez France Culture. Le manga est amour et haine, le manga est kitsch, le manga est émerveillement, le manga est... Je n'ai toujours pas de réponse à cette question. Osamu Tezuka, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui n'a pas non plus de réponse à cette question, mais tentera de la cerner au mieux en vous faisant visiter l'exposition Tezuka, visible à Angoulême, dans le cadre de l'édition 2018 du Festival International de la Bande Dessinée. Une visite que nous poursuivrons avec celle consacrée à l'Alix de Jacques Martin pour le 70e anniversaire de sa naissance et à Emmanuel Guibert. FIBD d'Angoulême 2018, c'est ce soir dans Mauvais genre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre Angoulême, comme tous les ans à la même époque depuis plus de 20 ans presque. Mauvais genre qui commence ce soir, Antoine Guillot, bonsoir. On va avec vous visiter le festival qui commence d'abord par évoquer le Grand Prix de cette année qui nous réjouit. On mentirait en disant le contraire.
On aurait été réjouis dans tous les cas, hein, parce que les trois finalistes de ce Grand Prix, que ce soit Emmanuel Guibert, qu'on va entendre tout à l'heure, Chris Ware, l'immense Chris Ware, génie de la bande dessinée, ça aurait été formidable. Mais alors Richard Corben, c'est vrai qu'on ne pouvait pas faire plus mauvais genre comme choix. C'est vrai que l'apparition de Richard Corben dans ce trio de tête avait surpris ceux pour qui Richard Corben était réduit aux grandes années 70, à son barbare musculeux d'Aine, cette exploration des mondes de l'heroic fantasy ou plutôt du monde un peu à l'égard Iceboro, vous voyez, Planète de Mars, avec cette mise en abîme extraordinaire de ce que c'est que la sensation d'un jeune lecteur coincé, d'un nerd qui va par la grâce de la lecture être projeté dans le corps, donc de Den. C'est exactement ce que raconte Den, et avec ses couleurs extraordinaires, cette extravagance de la chair, cette exubérance de tout qu'il y a dans le Corben des années 70, avec son utilisation à la fois de l'aérographe et surtout de la quadrichromie pour produire des couleurs qu'on n'avait vues que dans les giallos. Hein. C'est presque du Mario Bava en bande dessinée. Et puis, certains avaient pensé qu'avec la disparition de Metal Hurlant, avec le reflux de la contre-culture américaine, Corben avait disparu. C'était loin d'être le cas. Nous, on en a souvent parlé à mauvais genre. Il a continué une œuvre à la fois extrêmement aventureuse et extrêmement indépendante aussi. C'est un des rares dessinateurs de genre indépendant américain. Et même quand il va travailler dans les bandes dessinées de super-héros au début des années 2000, parce qu'il faut bien vivre et qu'il va faire du Hellblazer, du Hulk, du Punisher ou Hellboy aussi, il va faire quelques Hellboy pour Mike Mignola, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a tout le talent du Corben récent, celui qui va retourner à ses premières amours, et c'est les livres qui ont été publiés récemment par Delirium. On dit bravo à Laurent Lerner d'avoir rappelé aux électeurs de ce Grand Prix, c'est-à-dire les auteurs de bandes dessinées, que Richard Corben était encore vivant et bien vivant et encore très actif. Il va revenir à ses premiers amours qui sont Alan Poe, qui sont Lovecraft, pour faire des bandes dessinées comme Rat Dog récemment, où on attend Grave qui va être publié sous coffret luxueux l'année prochaine, probablement pour la grande exposition Richard Corben qu'on attend à Angoulême, où ce trait qui au début était, comme je disais tout à l'heure, l'exubérance de la chair, est maintenant quelque chose de presque terreux. C'est-à-dire que ces personnages sont comme autant de golems, c'est la glaise qui prend forme sous nos yeux, avec ces monstres merveilleux, musculeux et à face simiesque, ces zombies, et cette grande tradition en fait qui est celle de l'horreur à l'américaine dans les comics, qui venait d'ici Comics au départ et qui a donné Eerie et Creepy, toutes les grandes publications Warren, que justement Delirium, Laurent Lerner a édité en intégrale. On en avait parlé, hein, deux volumes formidable. Donc c'est un grand bonheur de voir que cet homme, 77 ans, toujours très actif, soit honoré, pas oublié par le monde de la bande dessinée. Et notre grand espoir, c'est qu'il vienne de son Texas, où il habite actuellement. C'est un natif du Kansas. Lui, c'est vraiment le garçon élevé au maïs, hein, le corps comme ça, extrêmement solide. Qu'il quitte le Texas pour venir l'année prochaine à Angoulême et qu'on ait la chance, l'opportunité de faire une heure d'entretien. Richard Corben à mauvais genre, on en rêve. En tout cas, Richard Corben urbaine à Angoulême, c'est acté et c'est un grand bonheur.
Merci Antoine. Et bien maintenant, entamons notre visite commentée d'Angoulême 2018. Et cela se déroulera en trois étapes. Donc Osamu Tezuka, Alix et Emmanuel Guibert. Bonjour Xavier Guilbert, merci de nous accueillir au sein de cette exposition Tezuka. C'est un moment extrêmement émouvant puisque c'est la première grande exposition française consacrée à ce personnage considérable. Alors, petite anecdote de départ, en 1982, j'avais recueilli le souvenir de Bernard Joubert qui avait croisé et reconnu Tezuka dans la foule du festival. L'homme était seul, très peu entouré, et il était allé vers lui, lui avait parlé. Tezuka était très heureux. Donc cette exposition, d'une certaine façon, je ne vais pas dire qu'elle répare un moment douloureux, mais qu'elle rend enfin hommage à un personnage qui est déjà passé ici et qui là est honoré à la mesure de son génie.
Oui, tout à fait. En plus, on a un autre anniversaire qui est quand même le 90e anniversaire de la naissance de Tezuka, puisqu'il est né en 1928. Et effectivement, on est très très heureux d'avoir cette rétrospective qui est exceptionnelle, effectivement, parce que c'est la première grande rétrospective qui lui est consacrée. Et en plus, c'est une rétrospective pour laquelle Tezuka Productions nous a permis d'exposer à 200 originaux qui viennent du Japon, dont certains qui ne sont jamais sortis du Japon, notamment des planches qui datent de 1948. Ce qui nous permet d'avoir une vision véritablement complète de la carrière exceptionnelle de Tezuka, puisqu'on a vraiment un panorama, je ne vais pas dire exhaustif, parce que c'est difficile d'être exhaustif quand les œuvres complètes représentent 400 volumes, mais au moins de pouvoir essayer de montrer toute la richesse, toute la diversité, toute l'inventivité des planches de Tezuka.
Alors, 200 planches sur quelques 170 000 qui ont été dessinées par Tezuka. On imagine que le choix a été difficile, d'autant que Tezuka n'aimait pas qu'on montre ses originaux. Il voulait montrer toujours des reproductions recadrées, parfaitement propres. Et c'est aussi l'occasion, cette exposition, ce qui est passionnant, c'est de rentrer dans la fabrique Tezuka, parce que il a retravaillé ses livres d'année en année. Souvent, ce qu'on apprend d'ailleurs grâce au catalogue et grâce à la biographie de Tezuka, hein, faite par le studio Tezuka, c'est que c'est quelqu'un qui imagine quasiment toutes ses premières histoires quand il est adolescent, qui va les dessiner, puis les redessiner, les recomposer selon que ça apparaît dans un magazine ou dans un livre, et il fait comme Hergé a fait avec Tintin, mais de manière beaucoup plus exceptionnelle. Découvrir ses planches, ça a permis de rentrer dans la fabrique Tezuka.
Oui, en plus, on a eu cette chance que Tezuka Productions a accepté de nous prêter des planches qui sont des planches dans lesquelles on voit toutes ces reprises. Alors, on a notamment tout un panneau sur Le Roi Léo, qui est peut-être la série la plus extrême dans cette approche-là, puisqu'elle a été redessinée. Il y a 6 versions différentes qui existent, entre la première version publiée en magazine, sa première édition en recueil, une deuxième édition en recueil, et jusqu'à la dernière édition, qui est une édition qui prend en compte en plus la diffusion en dessin animé, dans lequel il retravaille notamment les personnages humains pour être à corps. Donc on a effectivement sur beaucoup de planches, que ce soit sur Le Roi Léo, sur Astro Boy, on voit qu'il y a des rustines, des planches qui ont été recomposées. Il y a aussi des changements de format d'édition qui était, on passe de format à 3 bandes vers des formats à 4 bandes qui forcément changent l'agencement de la planche. Et pour ça, Tezuka a toujours appliqué ce qui est son vrai credo, c'est d'avoir une œuvre qui reste extrêmement lisible. Donc c'est toujours dans un travail de lisibilité, on ne rajoute pas de complexité, on va à l'essentiel, on rajoute du dynamisme à la planche, il y a toujours cette volonté de pousser sa narration vers le haut, vers une fluidité extrême, vers une subtilité aussi au niveau émotionnel, au niveau dramatique. Et c'est vraiment là-dedans qu'il est dans l'art, c'est pas pour rien qu'il a eu l'influence qu'il a eue sur une carrière qui quand même s'est étendue sur 4 décennies. Et il a réussi durant tout ce temps, et malgré toutes les remises en question, à rester un modèle, alors un modèle qu'on pouvait imiter ou un modèle dont on cherchait absolument à se démarquer, parce que vu qu'il était extrêmement bon dans ce qu'il faisait, parfois la seule échappatoire c'était d'aller dans une autre direction que celle qu'occupait Tezuka.
parlant de l'affluence de Tezuka et surtout de ce qu'il invente. Quand on rentre dans cette exposition, on voit des planches qui sont très influencées par le cinéma, par le découpage cinématographique dans un manga qui à l'époque était très théâtral, donc très, très figé. Il le dira, on avait l'impression que c'était le spectateur qui regardait des acteurs sur scène, mais il va inventer des codes du manga. Là, on est entre des planches consacrées aux personnages les plus connus de Tezuka, Astro Boy et Princesse Saphir. Et là, par exemple, on découvre l'œil, le fameux œil de manga, l'œil entièrement noir avec une petite lumière blanche qui donne l'impression que la pupille est blanche, que c'est comme un œil occidental inversé. Et ça, c'est Tezuka qui l'invente, par exemple.
Alors, c'est pas uniquement Tezuka, il y a d'autres personnes, il y a toute une généalogie qui existe. Tezuka prend cet élément-là et va effectivement le populariser. Mais on trouve notamment dans des artistes féminines de l'époque qui sont contemporaines de Tezuka déjà ce motif-là. Mais c'est vrai que Tezuka, du fait de sa position centrale et puis de l'influence et de l'aura qu'il va avoir auprès de ses contemporains, même il va avoir une attitude de mentorat. On parle de la résidence du Tokiwaso, qui est une résidence à Tokyo, dans laquelle vont résider un certain nombre de jeunes auteurs qui vont être au contact de Tezuka, qui vont l'aider une ou deux fois. Alors certains refusent absolument d'être identifiés comme étant ses assistants, mais clairement Tezuka, que ce soit avec ces gens qu'il a pris sous son aile ou après avec le système des assistants qu'il va mettre en place, va travailler à la diffusion et la mise en œuvre de toutes ces techniques et a véritablement été une force extrêmement importante dans le développement du manga tel qu'on le connaît aujourd'hui.
On est devant Princesse Saphir et là on a déjà un aspect qui est très très intéressant de Tezuka qui n'a pas été immédiatement identifié en France. En France, ça fait quand même guère que 20 ans qu'on découvre vraiment les planches de Tezuka. C'est son côté presque transgenre, on dira, d'introduire du trouble dans le genre très vite. Princesse Saphir, quand on regarde de loin, on a l'impression de voir du Walt Disney. On est dans un univers proche des Silly Symphonies. Et puis en fait, c'est l'histoire très compliquée. C'est presque Victoria d'un personnage de femme qui doit se travestir en homme, mais qui doit se retravestir en femme pour séduire l'homme qu'elle aime. Il y a quelque chose de très étrange quand même chez Tezuka tout de suite.
Oui, tout à fait. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que le titre japonais n'est pas genré. En français, on l'a traduit par Princesse Saphir. Le titre japonais, c'est Ribon no Kishi, c'est le chevalier au ruban. Donc on n'est pas du tout dans une... Le fait que Saphir serait une princesse n'est pas aussi clair dans l'histoire originale, et c'est une thématique que Tezuka revisitera. Il y a notamment le titre MW, Male Man Woman, qui joue beaucoup sur ce trouble, sur quelqu'un qui peut se grimer en femme. Bon, il y a aussi les éléments, là on aborde plus franchement la question de l'homosexualité, mais cette question du genre, du côté un petit peu trouble, est quelque chose qui reste quand même très présent chez Tezuka. Il y a le personnage de Rock Holmes aussi, notamment dans Alabaster, qui incarne aussi cette ambiguïté, cette ambivalence qui reste présente.
Parlons justement du personnage emblématique, le plus célèbre, Astro. Parce qu'est-ce qu'on peut... Alors là, il a été présenté de manière, on peut dire, on peut fouiller à l'intérieur de son... Il y a toute l'ingénierie électronique à l'intérieur du personnage.
Oui, alors on veut aussi donner, ça fait partie de la dimension ludique, il y a effectivement ce superbe poster qui réagit à la lumière noire, qui permet de découvrir, c'est peut-être aussi une métaphore de l'exposition, de vouloir essayer d'emmener les gens un petit peu plus loin des apparences et de découvrir la complexité de Tezuka. Astro étant bien sûr le personnage emblématique de Tezuka, c'est celui qu'il va accompagner pendant de nombreuses années, et lorsque l'apparition d'Astro s'interrompt, très symboliquement, elle correspond également à un moment de crise de Tezuka où il va être obligé de se réinventer, et ce qu'il va faire avec brio. Mais Astro reste aussi un personnage qui est très très cher au cœur des Japonais. Si vous êtes à Tokyo et que vous prenez le métro à la station Takadanomaba, la musique qui vous indique que les portes sont en train de se fermer, c'est le générique d'Astro Boy, ce qui fait qu'Astro reste encore aujourd'hui présent dans le quotidien des Japonais et cher à leur cœur.
Astro Boy, c'est un personnage, mais chez Tezuka, ce qui est passionnant, c'est qu'il y a des acteurs. Il y a un star system, comme on l'appelle, une troupe, comme John Ford en avait une, Preston Sturges en avait une autre. Il y a un certain nombre de caractères qui vraiment fonctionnent sur le principe de la star. Ils ont leur personnalité, ils ont leur façon d'agir. On ne peut pas les mettre dans n'importe quel rôle, mais ils vont revenir régulièrement. Et le premier, il est au centre de ce dessin qui représente une petite galerie, c'est Oncle Moustache. Comment Tezuka, d'abord, pourquoi est-ce qu'il a créé cette galerie de stars, et comment il va s'en servir?
Alors, cette idée de, du star system, c'est quelque chose qui s'impose très tôt à Tezuka. L'oncle Moustache est inspiré par le grand-père d'un de ses camarades. Et il doit avoir 12 ou 13 ans, donc on est en 1942-1943. Et à ce moment-là, déjà, Tezuka a une activité de ce qu'on pourrait appeler de fanzine aujourd'hui. Donc il publie, il renéote des petits livres qu'il distribue à ses camarades de classe. Et cet oncle Moustache va très rapidement devenir le héros d'une série d'enquêtes. Donc dans ces années de formation qui sont avant les débuts de publication officielle de Tezuka, il va déjà mettre en place toute cette galerie de Star System. Et c'est d'ailleurs très, très marquant, puisque dès qu'il commence à publier officiellement avec La Nouvelle Île au Trésor en 1947, qui va être suivi d'autres termes, d'autres livres, ce Star System est en place. Et on a même une page de carnet de Tezuka où il liste les personnages principaux du Star System avec les rôles auxquels ils peuvent prétendre, personnages principaux, personnages secondaires, antagonistes, et leurs cachets. C'est envisagé à ce point-là. Ce qui va être intéressant, c'est qu'au moment où justement Tezuka va se réinventer, va intégrer aussi tout ce qui est la grammaire du Gekiga qui se développe à côté, qui est un manga plus adulte, souvent très marqué socialement, il va également faire évoluer son star system. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui étaient des personnages entièrement positifs, comme le personnage de Rock Holmes, qui vont se draper d'ambiguïté, Rock Holmes, qui était un héros très positif, comme on avait Tezuka dans les années 40, 60, 50, va devenir un personnage narcissique, ambigu, un petit peu cruel, parfois violent, et donc je vais pas dire le verre est dans le fruit, mais il y a vraiment au sein même de ce qui correspond à l'identité de la production de Tezuka, on voit comment cette évolution se fait et se met au plus profond, et il va réaliser cette transformation de manière assez phénoménale, parce qu'il va y avoir une véritable renaissance de Tezuka.
Alors, on est ici entre plusieurs styles de dessin, c'est ça qui est très passionnant effectivement. Si on regarde derrière nous, on va avoir un dessin quasi photographique. De l'autre côté, en enjambant une petite marche, si on regardait de loin, on pourrait se dire que c'est du Andreas, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion sur la forme même de la planche et de remettre en crise le système des cases bien séparées. Or, le parcours de Tezuka est très étonnant puisqu'il commence comme un inventeur de formes. Il devient un classique presque immédiat, donc avec ce nouveau manga qui apparaît dans les années 60-70, il est un peu ringardisé, il va essayer de suivre le courant et de se réinventer. Et arrive dans les années 80 un Tezuka beaucoup plus apaisé, le Tezuka des Trois Adolphes, par exemple, qui se rend compte de la maîtrise de son art, qu'il n'a pas besoin de montrer qu'il déstructure tout, et qu'il revient à une forme de classicisme qui lui permet de traiter des sujets les plus audacieux. On peut résumer comme ça le parcours d'un Tezuka ?
Oui, sachant que il a toujours géré tous ses styles en même temps. Et, on a ici quelques planches de Hayako, qui est une œuvre qui est assez, qui pour moi est une œuvre qui est assez symbolique, emblématique de ce que peut être Tezuka, avec une conscience sociétale dans le récit, l'idée d'un Japon traditionnel, la famille, mais également au niveau du dessin, on a à peu près toute la palette de ce que peut faire Tezuka, avec ce dessin très réaliste pour les pages de chapitre, un dessin qui parfois touche à l'abstraction, l'inventivité. Donc oui, Tezuka s'est développé, mais toujours en enrichissant sa palette et en continuant aussi à mener de front souvent des séries qui exploraient plus ou moins de choses. C'est vrai qu'avec l'évolution, l'une des choses qui a peut-être le plus disparu sur le Tezuka tardif, donc le Tezuka apaisé des Trois Adolphes, de l'Arbre au Soleil, c'est son star system, parce que au fur et à mesure que son dessin devient un petit peu plus réaliste, les personnages cartoonesques du début deviennent de plus en plus, passent au second plan. On a un personnage qui reste au sein des Trois Adolphes, qui est Ameneg, qui est le grand méchant, qui est présent, mais même lui est transformé et perd un petit peu de son côté élastique et devient rentre dans le monde réel. Donc c'est peut-être cette évolution qui est peut-être la seule véritable marque d'un Tezuka qui vieillirait, qui abandonnerait des choses, mais il y a toujours eu plus une construction en empilement plutôt que le fait de tourner la page sur des choses qui auraient été présentes auparavant.
Alors j'aimerais qu'on parle de la déstructuration, la restructuration des planches. On a vraiment l'impression que c'est l'énergie intrinsèque de l'histoire qui dicte sa forme à la planche. Il n'y a pas cette espèce de calibrage, de gaufrage classique. Là, par exemple, là, c'est uniquement des traits qui découpent comme ça la planche. Des fois, on voit des lignes de force qui traversent la planche pour venir percuter un personnage. Il y a des fois, c'est comme une sorte de brisure. c'est quelque chose de fort chez lui, cette espèce d'énergétique comme ça de l'histoire, de la narration, qui explose véritablement la structure de la planche.
Oui, c'est quelque chose que Tezuka va mettre en place assez rapidement. En fait, à ses débuts, il publie, non pas dans des revues, mais dans un réseau de librairies de près, les Kashibanya. Donc, les histoires sortent en un volume, en une fois. Et si ses premières histoires sont très influencées par une grammaire cinématographique avec l'utilisation de gros plans, de travelling, enfin leur transcription sur la page, ce qui était effectivement novateur par rapport à un manga qui était plus théâtral, très rapidement il va prendre conscience de la potentialité de la spatialité de la page. Et ce qui est assez symbolique, c'est qu'on peut dire que quasiment cette prise de conscience, elle s'achève avec Crime et Châtiment, qui paraît en 1953, qui est le dernier livre qui paraît dans ce réseau de librairie de près, et qui va vraiment montrer un Tezuka qui utilise cette spatialité de la page à des fins dramatiques pour soit mettre en parallèle des éléments et faire ressortir la tension dramatique d'un moment, soit effectivement représenter soit les états internes d'un personnage. On a parfois des mises en page très déstructurées où la page correspond à des éclats ou qui correspondent à la confusion. Donc effectivement, la page va devenir un moyen de mettre en scène le champ de bataille, les émois internes, les tourments des personnages. Et c'est vrai que quand on a fait l'exposition, on avait envie de mettre en avant cette thématique-là, et on a commencé à mettre de côté des planches qui correspondaient à ça, et puis on s'en est retrouvé avec une quantité assez astronomique. On a été obligé de faire un tri, forcément, et c'est ça qui nous a dicté d'avoir une dernière partie dans l'exposition, qui est une sorte de couloir dans lequel on introduit juste en disant voilà, là on va vous montrer une sélection de pages qui montre toute l'innovation, tout ce qui est assez magique dans l'approche de la page de Tezuka. On va pas vous les détailler, mais savourez. On a donc une cinquantaine de planches qui sont là, qui sont mises les unes à côté des autres. On les a regroupées plus ou moins par thématique, mais ça permet comme ça de se replonger et d'être à nouveau, une fois de plus, ébloui par cette vitalité et cette inventivité qui est présente chez Tezuka de ses débuts jusqu'à sa fin.
Dernière question, on est à mauvais genre, donc la question sur l'érotisme de Tezuka. On a évoqué avec Antoine Guillot la question du transgenre, la question d'une espèce de sexualité à la ligne Tremblay. Est-ce que là on est à côté donc personnage d'Ayako, un personnage d'une grande sexualité, un grand érotisme fluide de la jeune fille. Comment pourrait-on un peu définir l'érotique de Tezuka?
Ayako est peut-être le summum, moi, dans ce que j'ai pu dire, parce que c'est difficile de dire qu'on a tout lu chez Tezuka, qui est un érotisme qui n'est pas naïf. Il y a beaucoup de naïveté chez Tezuka, c'est pas le seul, hein, les autres aussi. Si on lit par exemple Gonagai, qui est un énorme, qui a beaucoup aimé l'érotisme, il y a quand même quelque chose d'assez naïf vis-à-vis de ça, à la fois pour des questions de publication, de structure éditoriale, mais aussi peut-être de rapport à... Là, j'avoue, je manque peut-être de repères, mais Ayako, c'est peut-être le summum dans lequel elle est traitée avec beaucoup d'élégance. Il y a des choses qui sont plus égrillardes, je pense à La Grande Panique du Diletta, qui est paru chez Feu le Bleu, dans lequel on a ce Tezuka avec un trait plus lâché qu'on connaît moins, mais qui est aussi très attachant pour son côté un petit peu égrillard. Il y a de temps en temps, il va s'éloigner de ça. Je pense que ce sont des choses avec lesquelles il a... c'est pas quelque chose qui est central chez Tezuka, il y a d'autres préoccupations, mais c'est vrai que ça reste présent, et Ayako reste quand même peut-être le summum et un rayon de soleil, notamment avec ce personnage. Il y a un rayon de soleil, c'est un petit peu difficile, c'est le choix peut-être mal été choisi pour la thématique de Ayako, qui est quand même extrêmement sombre, mais dans l'élégance et dans la représentation de la sensualité, il y a vraiment des planches qui sont parmi les plus belles qu'on a pu avoir chez Tezuka.
Alors nous sommes ici dans l'entrée de cette exposition consacrée à l'art de Jacques Martin, mais beaucoup à Alix. Nous sommes sous des tentures pourpres quasi romaines, donc l'ambiance est donnée. Alors, question épineuse, hein, réhabiliter Alix. Nous sommes avec les commissaires de l'exposition, Gaëtan Accuse et Romain Brett. Il fallait bien être au moins deux pour attaquer le personnage à la jupette qui a fait rêver beaucoup de lecteurs et de lectrices, il ne faut pas les sous-estimer. Alors, Alix aujourd'hui.
Ben, y a de toute évidence une image peut-être dans la bande dessinée a pu pâtir à une certaine époque, en tout cas, une facture un peu classique, des textes nombreux, mais il y a, quand on regarde de près les originaux, le scénario aussi, une modernité, parce que Jacques Martin, d'une part, représente certes la Rome antique, mais dans son époque, dans les années 50, 60, 70, et il introduit de plus en plus l'actualité de son époque. Et c'est un hasard, mais finalement assez heureux. On se retrouve avec une rétrospective qui couvre 40 ans de carrière de Jacques Martin, auteur complet, dessinateur et scénariste. Et cette période va de 48 à 88, et ça épouse peu ou prou les dates de la guerre froide. Et donc le personnage d'Alix, si dans les débuts il a tous les atours du personnage classique de la bande dessinée franco-belge, héros vertueux, dont les histoires se concluent par un happy end, au fil du temps, il y a une complexité qui commence à apparaître. Le personnage apparaît vraiment un peu plus complexe, parfois plus perdant que gagnant, en tout cas pas forcément le gagnant à 100% dans les histoires. Et ça dit beaucoup d'une part de la psyché de l'auteur, et puis c'est l'occasion encore une fois de parler de l'époque. Vous avez vu à la fin des choses assez étranges, des choses assez terrifiantes qui renvoient. Alors, on pourrait prendre parmi d'autres exemples la bombe atomique, hein, puisqu'il s'autorise par exemple à représenter un champignon atomique, et c'est un anachronisme certes, mais qui en dit long justement sur l'évolution de l'œuvre.
C'est compliqué de parler de Jacques Martin pour Alix parce qu'il y en a plusieurs. On peut faire un lien sur les scénarios, mais on a ici une salle qui est assez exemplaire de ça. Il y a l'invention d'un style qui va se réinventer, se figer aussi d'une certaine manière, donner un canon qui sera celui qui sera repris par les continuateurs de la série. Mais on a les premières planches, je crois qu'elles étaient, oui voilà, par ici. Là on a vraiment des exemples très différents. On a la première planche d'Alix l'Intrépide où on sent une influence de la bande dessinée américaine comme Jacobs, Première Manière, avait pu aussi être influencée. On a un passage qui sera plus ligne claire RGN, qui moi personnellement est mon Jacques Martin préféré, celui qui est le plus souple, un trait un peu épais comme ça, et puis après le trait va, les postures vont un peu se figer, le trait va devenir plus fin, il va y avoir l'invention de cette manière de dessiner la lèvre ourlée propre à Jacques Martin. Pourquoi est-ce que le style de Jacques Martin évolue autant, et pourquoi surtout à un moment où on pourrait penser qu'il a trouvé son style, il va encore le réinventer, Romain Brett?
Alors c'est vrai qu'il y a différentes périodes assez claires. Finalement, le style de Jacques Martin, il s'instaure dans la série relativement rapidement, parce que c'est vrai que sur le premier album, hein, Alix l'Intrépide, c'est vrai qu'on a une influence Alex Raymond, par exemple, parce qu'il est très influencé par cette bande dessinée américaine. Et puis très rapidement, comme il arrive donc au sein du journal Tintin, donc à la fin des années 40, début des années 50, on lui dit tout de suite, d'une certaine façon, on lui dit, voilà, il faut faire ce qui marche. Donc ce qui marche, c'est quoi? Évidemment, Tintin, mais aussi beaucoup Black et Mortimer, hein, qui avec Le Secret de l'Espadon monte en puissance, est devenu une des grandes valeurs sûres aussi du journal Tintin. D'ailleurs, Hergé en est un petit peu jaloux de ce point de vue-là. Et donc, parmi les styles qu'il faut imiter, il faut faire du Hergé et du Jacobs. Et c'est vrai que sur les quatre premiers titres de la série, on va avoir une alternance, hein, ce glissement finalement d'une patte d'abord jacobsienne, qui est très perceptible avec L'Île Maudite par exemple, qui est là où ça culmine. Si on regarde les planches de L'Île Maudite, je crois que c'est le seul album dont Martin disait qu'il aurait souhaité le redessiner, hein, L'Île Maudite. Il a dit, si je devais redessiner un album, ce serait L'Île Maudite, parce que de ce point de vue, voilà, il est trop marqué par l'influence Jacobs. Les personnages sont assez grossiers, assez difformes, l'anatomie est assez fantaisiste, quelque chose sur lequel il va ensuite beaucoup travailler. Et ensuite sur la tire d'Oribal, en revanche, c'est typiquement le trait RG1. On a des passages vraiment très perceptibles, hein, des personnages, même dans le choix des phylactères, le choix de la typographie, qui sont typiquement RG1. Et à partir de La Griffe Noire, là ça bascule, c'est-à-dire Martin va trouver véritablement sa voie dessinée, parce que aussi Alix commence à prendre de l'importance, il commence à avoir du succès, et lui-même va s'émanciper progressivement de ces ombres tutélaires que sont Jacob, c'est Hergé, à partir de La Griffe Noire, pour trouver finalement assez rapidement, dès le début des années 60 avec donc Les Légions Perdues, finalement ce qui correspondra au style dont vous parliez, le style canonique Martin.
Même si effectivement La Griffe Noire, à partir de 57-58, c'est l'album où il met en place le style, c'est un album qu'il aime beaucoup parce que c'est l'album de l'émancipation. Et malgré tout, même dans Les Légions Perdues, dans Le Dernier Spartiate et après, par la suite, ça se révèle dans les originaux, ça se révèle aussi dans les albums. Il y a des dissonances stylistiques. Parfois, d'un album à l'autre, il y a des changements, pas complets, mais quand même des changements de manière. Les Légions Perdues, c'est un album pour beaucoup de gens mythique, extraordinaire, avec cette mise en couleur qui donne un aspect un peu huile, une vibration très particulière dans cet album. Le Dernier Spartiate, quand vous le regardez en album, on voit vraiment la texture du papier, c'est assez étonnant dans la mise en couleur, c'est très étrange. Et puis après, même, il y a des changements, il continue de modifier sa manière, on ne sait pas trop par quoi il est guidé, la typographie peut changer, la forme des bulles peut changer, la charge de texte, les cadrages, il y a un style qui certes se fige, et en même temps, il y a tout le temps du mouvement.
Donc il y a une dimension pédagogique, propédeutique de la bande dessinée de Jacques Martin, qui est également là pour apprendre l'Antiquité en acte à ses jeunes lectrices, à ses jeunes lecteurs. Alors, quelles sont, je dirais, sur ce plan, les sources de Martin, puisque d'une part, vous citez sa bibliothèque de travail, sa documentation, et vous mentionnez le chiffre de 3000 volumes. Donc c'est véritablement une bibliothèque de département d'histoire de l'Antiquité de faculté. Enfin, il devait avoir vraiment le moindre détail devait être documenté. Il y a cet aspect. Vous montrez beaucoup de toiles classiques, donc il y a Napoléon de David, il y a des toiles pompières, c'est sûr, dans le hiératisme et l'aspect comme ça, dressé des corps, il y a de la peinture pompière. Et le cinéma, quelle a été l'influence du péplum, par exemple, sur Jacques Martin, puisque le démarrage d'Alix est un peu contemporain des grandes réalisations du péplum. Est-ce qu'il est plus Musée du Louvre ou plus Cinecittà?
Alors, Jacques Martin avait une relation au péplum qui était un petit peu compliquée. C'est pas un très grand amateur de péplum, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On sait par exemple qu'il était assez sévère avec le Spartacus de Kubrick, qui trouvait tout à fait dénué de réalisme, de crudité, parce que finalement, Jacques Martin est intéressé aussi par les aspects de l'Antiquité qui sont les aspects les plus crus, les plus durs, les plus violents. C'est quelqu'un qui va ne pas chercher forcément à édulcorer la violence antique. Alors évidemment, la violence dans les années 50-60, c'est quelque chose qu'on montrait difficilement dans les pages de Tintin, parce qu'il y avait tout de même une surveillance assez accrue de l'expression de la violence. Mais dès les années 70-80, il va là un petit peu se lâcher, à la fois dans la représentation des corps, dans l'expression d'une violence beaucoup plus crue, beaucoup moins édulcorée. Et de ce point de vue, c'est une vision de l'Antiquité qui va coïncider, je dirais presque plus, avec ce que lui voyait de l'Antiquité, parce qu'il idéalise pas l'Antiquité du tout. C'est pas quelqu'un qui idéalise l'Antiquité. Il en accentue les aspects les plus durs, hein, l'esclavage, bien sûr, la place des femmes, même si on pourra revenir peut-être sur la place des femmes, qui est assez originale chez lui. Donc de ce point de vue, c'est quelqu'un qui a un rapport à l'Antiquité qui est assez complexe. Vous parliez des sources. Au début, il a très peu de sources. Au début, fin des années 40, il travaille avec 2-3 livres, je dirais. Il y a le Glotz, le livre de référence de Glotz. Il y a Jérôme Carcopino, qui va beaucoup modeler son image de César, hein, parce que Jérôme Carcopino, qui était le grand historien romain des années 40, qui écrit une sorte de biographie de César, qui est quasiment une hagiographie. Et donc, lui, il va s'appuyer beaucoup là-dessus pour faire un César absolument triomphant, etc. Il reviendra sur cette vision de César après, hein, en faisant davantage un conquérant, plus ambigu, etc. Et donc, c'est au fur et à mesure, hein, des années 50-60 qu'il va enrichir sa bibliothèque. Il s'appuie aussi beaucoup sur les historiens antiques, quelque chose qui est moins perceptible. Il s'appuie sur Tacite, il s'appuie sur Plutarque, il s'appuie sur Suétone, beaucoup. C'est moins perceptible, évidemment, des lecteurs contemporains. Dans les années 50-60, on faisait du latin, on faisait du grec, beaucoup, même à un niveau de petite école. Hein. Et donc, finalement, on connaissait assez bien ces auteurs-là. Et donc, il n'avait pas besoin d'insister lourdement. Aujourd'hui, quand on voit les allusions à ces historiens-là, elles sont assez invisibles, hein, pour un lectorat contemporain.
Ce qui est assez passionnant avec le personnage d'Alix, c'est que c'est un personnage quasiment schizophrène. C'est-à-dire qu'il est, c'est un gallo-romain, il faut le préciser. C'est un fils de Gaulois élevé par un Romain et qui n'aura de cesse de naviguer entre les deux mondes et puis dans tout le bassin méditerranéen. C'est-à-dire que vraiment, il va visiter l'Empire romain et c'est un héros qui n'est pas très fort. C'est-à-dire que ce n'est pas un surhomme. Souvent, il échoue. Le livre est souvent plus intéressant d'ailleurs. Quand il échoue, parce que le tragique de l'histoire et de sa violence est là en permanence. Or ça, c'est très à rebours du héros qu'on peut trouver en général dans la bande dessinée, et en particulier réaliste.
complètement, c'est pour ça qu'on peut parler d'un héros paradoxal justement. Il y a par exemple ces deux planches, finales mises en dialogue dans l'exposition, la dernière planche de la Tierre d'Orribal, donc milieu des années 50, et puis la dernière planche de la Tour de Babel, qui est donc de 81. Donc 25 ans séparent ces deux histoires. À la fin de la Tierre d'Orribal, Alix est remercié par le roi, le jeune roi Orribal, qui l'a aidé à remettre sur le trône. Et à la fin de la Tour de Babel, alors qu'il était censé revoir, Martin voulait nous faire revoir ce personnage, Alix est censé le retrouver à la Tour de Babel, mais c'est sa tête décapitée qu'il découvre. Et finalement, à la fin du livre, dans la dernière planche, on se retrouve avec le frère, ou le quasi-jumeau, l'avatar d'Arbacès, l'ennemi juré d'Alix pendant les quatre premiers albums. Son frère est là, mais il n'a pas vraiment été un méchant, un mauvais au cours de l'histoire, et Alix, dans cette page, lui dit « Je ne peux pas vraiment te remercier, mais tu as mon respect. » Et il enterre symboliquement la tête d'Orribal dans le désert. Et dans la dernière case de l'histoire, une nuée d'aspics, de serpents, qui viennent de tuer le personnage féminin de l'histoire, la jeune Mara. Une nuée de serpents sort de terre, à l'endroit même où Alix a enterré la tête d'Orribal. Donc c'est quand même une manière un peu particulière de faire revenir, sans faire revenir, un personnage dans une bande dessinée.
Puis, autre particularité d'Alix, et à l'époque, dans la bande dessinée réaliste et dans le journal Tintin en particulier, il n'y a qu'un Paul Cuvelier qui va s'aventurer par là. C'est une odyssée du corps, de la représentation du corps nu, du corps quasi nu, en jupette, parfois complètement nu. Alors, est-ce que c'est le côté grand artiste classique de Jacques Martin, reprenant les postures à la fois de la peinture d'Ingres et puis de toute la statuaire antique, ou est-ce qu'il y a autre chose ? Est-ce qu'il y a la volonté justement de représenter des corps à un moment où ça ne se fait plus, où on a plutôt tendance à habiller le héros?
Il y a deux aspects, je crois. Il y a l'aspect effectivement amour des corps au sens classique du terme, c'est-à-dire beaux-arts. Martin n'est pas quelqu'un qui a fait les beaux-arts, il a fait les arts et métiers. C'était quelqu'un qui d'abord s'intéressait beaucoup à la technologie, aux avions, etc. C'est visible au début de sa carrière. C'est visible aussi dans Le Franc, dans son personnage Le Franc. Mais c'est un personnage qui progressivement va devenir un véritable amateur d'art. Et donc, de ce point de vue, il y a, c'est vrai, une approche qui est très esthétisante, hein, très, très classique. Ça, c'est une perspective qu'on voit, évidemment, avec David, avec tous, et puis les peintres du 18e, on dira fin 17e, début 18e siècle, jusqu'aux peintres pompiers, avec Bouguereau et tout ça. Mais il y a aussi un autre aspect qui est aussi le rapport au nu, le rapport à la sensualité et le rapport peut-être à l'éveil même sexuel et à la sexualité. Et de ce point de vue, à la fin dans les années 70, années 80, ça y est, Martin va explorer plus avant, je dirais, le rapport à la nudité et à la sexualité, et dans un rapport qui est aussi plus proche de celui de l'Antiquité à la sexualité. C'est très drôle parce que Martin a une vision de la sexualité qui est une vision très grecque. Très très grec, c'est-à-dire dans ses interviews de l'époque, il dit bien oui, dans l'Antiquité, la nudité c'était pas un problème, c'était beaucoup moins un problème que chez nous, etc. On pouvait se promener nu, bon, et puis les pratiques sexuelles étaient beaucoup plus libres, etc. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que dans l'Antiquité romaine, la nudité, elle était problématique. On se promenait pas tout nu. Ça, c'était bon pour l'Antiquité grecque. Dans l'Antiquité grecque, oui, on se promenait tout nu dans le gymnase, par exemple. La nudité était une marque aristocratique. On voyait les statues nues, les fameux couroïs. Voilà, ça, la nudité, c'était une marque aristocratique. De même pour la relation homosexuelle. La relation homosexuelle, très clairement, entre deux hommes libres, c'est une relation typique de la Grèce ancienne. Pas du tout de Rome. Et donc Martin, qui était très intéressé par ces aspects de l'histoire du corps, de l'histoire de la sexualité, a d'une certaine manière transposé ces éléments-là de la Grèce antique dans la Rome d'Alix. Voilà. Et donc ça, il a beaucoup joué là-dessus. De même, évidemment, avec les nombreuses scènes d'orgie qu'on peut voir, notamment dans Le Fils de Spartacus, dans Yorix le Grand, voilà, où là, on a une mise en scène très fantasmée, très proche de ce qu'on peut voir, évidemment, avec les représentations fantasmées de l'Antiquité, avec ses orgies, ses corps libres, etc.
Mais au-delà de l'hellénisation progressive du projet qui se produit dans les années effectivement 70, il y a aussi, on revient au contemporain et au fait que ce qui n'était pas possible devient possible. Et dans Alix, comme dans Lucky Luke à un autre titre, mais il s'agit toujours de la présence des femmes, ce qui n'était pas possible devient possible. Il faut songer que la seule femme qui a droit de citer ou même droit de parole dans Alix au début, c'est au début de Alix l'Intrépide, une planche de 1948, c'est une femme c'est la seule femme qui parle au début. Et pendant 17 ans, il n'y aura plus de personnage féminin qui est autorisé à prendre la parole dans la bande dessinée. Jusqu'à 1966, le dernier Spartiate, où la fameuse reine Spartiate, Andrea, est une femme en plus représentée comme une mère, une femme de 40-45 ans, qui en plus tombe amoureuse d'Alix. Donc on a quand même un contraste assez saisissant. Et puis, il y a aussi, évidemment, l'irruption de la nudité. À cet égard, on est assez heureux d'avoir pu retrouver une séquence de deux planches qui sont reprises, là, tout récemment par Blutch, qui les a synthétisées en une seule. Et c'est une scène qui a ému beaucoup de lecteurs du journal de Tintin au début des années 70, où on voit une jeune Gauloise, Ariella, qui subit le courroux du chef gaulois Yorix, l'impétueux rival d'Alix tout au long de l'aventure. Et Yorix dit « Soit, je te la donne, mais humiliée. » Et il lui arrache ses vêtements. Et Ariella apparaît dans une grotte au milieu d'hommes gaulois. Elle apparaît nue, prostrée, humiliée et donc impure. On peut penser qu'elle ne trouvera pas d'époux à cause de ça. Et Alix la couvre de son manteau. Et ça, c'est vraisemblablement, en tout cas, on peut très sérieusement le penser, la première femme nue dans le journal de Tintin. On est encore une fois après 68. Et c'est 71, et on est voilà, encore une fois dans cette modernité-là. Même si on est toujours en 50 avant Jésus-Christ.
Voilà, bien nous nous sommes déplacés dans le point, disons, inférieur droit, si j'ose dire, de l'exposition, bien loin du plan austère de la ville de Rome, vers trois sections dont je donne les titres, Corps supplicié, Invention de l'homo-érotisme dans Alix et Orgie. Donc voilà, on est au cœur du mauvais genre d'Alix. On peut peut-être commencer par les corps suppliciés, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, les corps sont soumis à rude épreuve, puisque ce ne sont jamais des corps mythiques. C'est pas massiste. Alix n'est pas massiste, ça c'est clair. Ça ne sont pas non plus des corps d'aristocratiques, de généraux, de sénateurs. Enfin, ils apparaissent, mais le corps du héros est un corps menacé. Et donc, là, justement, Jacques Martin va nous entraîner dans des secteurs qui sont ceux de l'esclavage, ceux de la persécution religieuse, ceux de l'humiliation du vaincu. C'est un peu le vae-victis.
Il y a effectivement une représentation de l'entrave, de la soumission du corps par les coups, par la foule. On a quelques exemples ici, avec Alix qui est fouetté collectivement dans Le Prince du Nil, qui se retrouve crucifié et à la merci des hyènes. C'est ce qui donnera la couverture mythique de cet album. Il y a aussi la représentation d'un enfant qui est victime des fanatiques molochistes qui veulent le faire brûler sur un bûcher. Et il y a là encore, oui, c'est vrai que dans cette vision démythifiée du héros, il y a le corps du héros supplicié. Et ça s'incarne très souvent. Mais ça participe.
Il n'y a pas une dimension christique, malgré tout. Si, quand même.
Par moment, il y a la crucifixion dans le.
Il y a un peu la passion du Christ, quand même. Oui. Parfois, il y a un chemin, un chemin de croix, hein, quasiment, qui est suivi par Alix, hein, quand il est transporté, la tête renversée en arrière. Bon, on a choisi de mettre, entre autres, on aurait pu choisir plein d'autres choses. On a mis un martyr de Saint Sébastien de Mantegna, voilà, qui est visible au Louvre, pour exprimer ce dolorisme, en fait. Il y a un dolorisme, très clairement. Oui.
D'autant plus un dolorisme que quand, là, on est devant ces planches, donc l'invention de l'homo-érotisme dans Alix, mais c'est valable même pour les orgies, quand le corps pourrait exulter, quand on est dans une célébration presque jouissante du corps, c'est toujours montré chez Jacques Martin dans Alix comme quelque chose d'extrêmement vénéneux, comme quelque chose qui a plus trait à la mort qu'à la vie. C'est-à-dire qu'on a plus de vie dans le supplice quasiment que dans les moments d'homme au bain ou les moments d'orgie romaine. Hein.
Ce qui est une vision assez chrétienne des choses, ce qui veut dire que c'est la douleur qui révèle à l'homme sa vérité et son sens de la réalité. Donc effectivement, à ce titre, Alice participe d'une certaine vision chrétienne, christique en tout cas.
Oui, il y a indiscutablement cette relation un peu vénéneuse qui est liée aussi à cette représentation de l'Antiquité. Peut-être que la planche la plus mauvais genre de l'exposition, c'est celle du fils de Spartacus, donc qui met en scène Livius Pura, qui est donc un préfet, qui est visité par Alix, qui dans cette histoire accompagne le fils de Spartacus. Hein, il a découvert que Spartacus, l'esclave révolté de Thrace, avait eu un fils. Et donc ils arrivent chez Livius Pura et ils trouvent ce préfet au bain. Il a une magnifique villa sur le lac de Côme, qui était un des lieux qu'adorait Martin. Et donc il sort de cette piscine, il est entouré de petits enfants. Livius Pura lui-même est nu, c'est un vieux monsieur, hein. On le voit bien, le corps est assez décharné ici. Et il est entouré de petits enfants qui sont aussi nus. Alors c'est une scène extrêmement scabreuse évidemment, et qui pourrait poser problème, qui aujourd'hui poserait peut-être problème, mais les références que indique Jacques Martin à travers les dialogues sont très révélatrices, parce que le Livius Pura dit « Oui, je joue avec mes petits poissons sous l'eau ». Et alors, évidemment, on lit ça aujourd'hui, mais on dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais en fait, il faut savoir que ce que fait ici Jacques Martin, c'est simplement décalquer une anecdote qu'il y a dans la vie de Tibère de Suétone. Et qui est relative à Tibère, l'exil de Tibère. Quand Tibère, à la fin du pouvoir paranoïaque, décide de s'exiler sur l'île de Capri, en fait, et Suétone dit que sur l'île de Capri, eh bien, il se livre à toutes les débauches, notamment, et dans une piscine précisément, eh bien, il est entouré de petits enfants nus qui font les poissons avec lui sous l'eau. Voilà. Et donc, Martin reprend littéralement cela de Suétone, c'est-à-dire que pour lui, c'est un décalque. Et en même temps, évidemment, comme le disait Gaëtan, avec le décalage des époques, alors en 1975... Peut-être ça passait évidemment encore, on est dans les années post-68, où il y a une libération des corps, libération de la sexualité, on discute de tout, et même de la sexualité des enfants, enfin tout est permis. Aujourd'hui, ça aurait beaucoup plus de mal à passer.
Sur le sujet, on peut aussi parler d'un personnage, il y a un album un peu dissonant dans la série justement, qui était à l'origine pour Paul Cuvelier, un auteur que Martin admirait énormément, justement pour cette représentation des corps nus. Et il faut d'ailleurs rappeler qu'une phrase qui nous a beaucoup plu dans ce qu'on a lu de Martin, c'est qu'il disait fréquemment que pour bien dessiner un corps, il faut l'aimer. Et ce personnage de Malois, la petite un peu sauvage polynésienne, c'est un album vraiment dissonant qui se passe sur une île déserte, enfin qu'on croit déserte, où Alix et Enak atterrissent on ne sait pas trop comment et dont ils ne pourraient a priori pas s'échapper. Ils rencontrent ce jeune personnage et elle apparaît recouverte d'une couronne de fleurs, d'un bouquet de fleurs voilà, qui est censé masquer le fait qu'elle est blessée au bras, c'est ce qu'elle dit, alors qu'évidemment la réalité c'est qu'on ne peut pas la montrer seins nus. Mais à la fin de l'histoire, quand elle veut rester avec Alix et Enak, elle se précipite dans l'eau, c'est une planche aussi que nous avons dans l'exposition, elle se précipite dans l'eau et elle apparaît seins nus. La technique qu'a trouvé Jacques Martin pour pouvoir faire publier cette planche, c'est qu'il a tout simplement envoyé très tardivement à l'imprimerie cette planche et donc elle a été découverte telle quelle dans le journal et le personnage de Malois était très clairement seins nus, bras écartés, implorant Alix et Enak de revenir la chercher.
Voilà. Ça correspond dans les proies du volcan, ça correspond peut-être aussi davantage à l'idée d'une nudité à l'état naturel. C'est-à-dire là, c'est vraiment un traitement de la nudité très très singulier où c'est Bernardin de Saint-Pierre, quoi. Oui, c'est-à-dire
c'est pas
vraiment.
La nudité décadente.
Non, c'est le bon sauvage, quoi. Voilà. C'est le bon sauvage, c'est la nudité dans tout son caractère naturel. C'est vendredi. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que, comme le disait Gaëtan, il y a une reprise d'un scénario de Paul Cuvelier à l'origine, donc, que Martin a adapté. Et donc là, il explore, je dirais, une autre voie de la nudité qui est la voie, je dirais, de l'expression naturelle, voilà. Qui correspond aussi aux années hippies, hein, les années 70, avec on revient à un rapport plus naturel et direct à la nature.
Troisième étape de notre déambulation dans l'édition 2018 du Festival d'Angoulême, l'exposition Emmanuel Guibert. Bonjour.
Bonjour François.
Heureux de vous revoir. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu à Mauvais Genre, donc fait-on ce retour avec cette exposition magnifique. Donc, mais on ne va pas commencer par l'exposition Emmanuel Guibert, mais par Emmanuel Guibert, amateur de bande dessinée, avec le Grand Prix de cette année, Antoine.
Oui, parce que ici, nous sommes dans une grande exposition rétrospective qui est d'ordinaire réservée au Grand Prix de la ville d'Angoulême. Emmanuel Guibert était dans les trois finalistes avec Chris Ware et le lauréat de cette année, donc Richard Corben. Mais ce n'était pas la peine qu'il l'ait, puisqu'il a sa grande et belle exposition.
Exactement.
Magnifique.
Dans le doublon.
Et on a quand même ce Richard Corben. Et comme on est ici, et c'est un peu le thème de toute cette exposition, l'enfance, il me semble qu'avec Richard Corben, vous avez un rapport peut-être moins d'enfant que d'adolescent, de découverte de ces bandes dessinées émues dans les années 70, comme beaucoup de nos auditeurs et comme moi-même, je dois l'avouer. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Richard Corben, Emmanuel Guibert ?
Ah, qui ne s'est pas paluché sur Richard Corben ne peut pas comprendre pourquoi il a eu le Grand Prix cette année. Moi, je le comprends pleinement. Et ce sont des lectures, en effet, comme vous l'avez dit, de l'âge tendre. Il était sous mon sapin de Noël quand j'avais 15 ou 16 ans. Je demandais à mes parents de me l'acheter. Mes parents se contentaient de passer à la caisse. C'était moi qui savais ce qu'il y avait dans le livre. Et j'aimais beaucoup les histoires de Corben. Je suis très content qu'il soit couronné pour plusieurs raisons. D'abord, j'en tiens pour l'idée qu'il faut couronner les vieilles dames et les vieux messieurs. Je pense même que ce sont les gens, évidemment, pour des raisons très évidentes, qu'il faut couronner en priorité, ainsi que les jeunes gens. J'ai tendance à penser que ceux qu'on décrit comme étant dans la force de l'âge, ou entre deux âges, comme disait Brassens, il faut les laisser queuter un peu, attendre un peu, parce qu'ils sont lancés à plein régime de leur boulot, et ils s'avisent, quand on leur consacre une exposition rétrospective, que ça prend beaucoup de temps de préparer une exposition. Si j'en avais eu deux de suite, d'une année sur l'autre, ça aurait trop handicapé la bonne marche de mon travail. Je suis content et soulagé que ce soit Richard Corben qui ait ce prix, et dans son Texas lointain, je l'embrasse bien fort sur ses gros biscottos.
Alors, si vous êtes exposé cette année à Angoulême, c'est parce que l'an dernier, vous avez reçu le prix Goscinny. Mmh. Et donc, forcément, on se dirait, dans cette exposition, c'est le Guibert écrivain, c'est le scénariste, c'est le raconteur d'histoire qu'on va montrer. D'ailleurs, c'est le titre de l'exposition, le dessin comme écriture. Évidemment, dès qu'on rentre, on est submergé par la puissance et la force, la réinvention permanente de vos dessins. Mais est-ce qu'effectivement, c'est une bonne manière d'envisager votre dessin, de le considérer comme un ensemble de signes qui sont là avant tout pour raconter une histoire? Est-ce que c'est comme ça que vous considérez votre dessin? Parce que j'ai pas tant l'impression, quand je vois vos planches, que c'est le cas.
Pourquoi pas? Quand on dessine pour la bande dessinée, quoi qu'on fasse, on est quand même obligé de se couper un peu bras et jambes, parce qu'on raconte une histoire, et que, à quelques rares exceptions près, la plupart des dessinateurs empruntent ce qu'on appelle un style ou une façon de dessiner pour mener à bien au moins un album, et parfois tous leurs albums tout au long de leur vie. Moi, c'est vrai que j'aime bien slalomer un peu d'un album sur l'autre, changer assez volontiers de style et même de registre et de public. Par contre, quand je veux dessiner plus que la bande dessinée m'y autorise, je fais autre chose. Je remplis des petits carnets, je fais un peu de peinture, un peu de lithographie, de métier d'art et trucs comme ça.
Vous faites des assiettes, vous dessinez sur du bois, c'est ce qu'on découvre ici.
Vous avez découvert les assiettes
faramineuses.
C'est ce que quelqu'un hier soir a appelé ma vaisselle. En effet, j'ai amené ma vaisselle. Et oui, j'ai cette nostalgie de, vous savez, du portrait de Blanche-Neige qu'on découvre quand on torche sa purée au fond de l'assiette quand on est petit. Et j'ai voulu retrouver ce bonheur il y a quelques années à la faveur d'un livre que j'ai fait avec ma femme. Elle en a écrit le texte et moi j'en ai fait donc les images. Les images, en l'occurrence, c'est un jeu d'assiettes, de vraies assiettes que j'ai décorées pour répondre à cette espèce de nostalgie inextinguible.
Le dessin sous la purée, ça pourrait être aussi une bonne manière de décrire votre façon de travailler.
Et un autre titre pour l'exposition.
Parce que je me souviens être passé un jour chez vous, dans votre atelier, vous étiez en train de dessiner la guerre d'Alan, et vous m'avez montré une de vos techniques qui consistait à dessiner avec une pipette d'eau et à y jeter ensuite une goutte d'encre pour voir ce que ça allait donner. Et on a ce sentiment, quand vous dessinez, que vous dites, comme un enfant, tiens, qu'est-ce que ça va donner si je dessine sur du bois, si je dessine sur un rhodoïde, c'est-à-dire le plastique transparent avec lequel on fait les dessins animés, qu'est-ce que ça va rendre, et la merveille de découvrir quelque chose que vous n'attendiez pas forcément.
Oui, c'est vrai. Dans la vie, il y a la cour de récré, qui est un endroit qu'on ne quitte jamais, parce que nos sociétés ont une furieuse tendance à ressembler à la cour de récréation. Mais les gens qui pratiquent des métiers d'art, eux, ils sont plutôt sur le chemin des écoliers. Ils traînent un peu. Et s'ils trouvent des choses sur le bord du chemin, en l'occurrence des outils dont ils peuvent se servir ou ne pas se servir parce qu'ils sont réputés être interdits pour le dessin, évidemment ils désobéissent et ils s'en servent. Alors moi j'aime bien contrarier les supports, j'aime bien utiliser des techniques qui ne sont pas faites pour dessiner parce que c'est un réservoir constant de jeu. Et le principe de l'existence de quelqu'un qui prétend intéresser les autres en leur racontant des histoires, c'est vraiment de jouer de A à Z et si possible de jamais s'arrêter. Donc c'est vrai que dans les planches que vous voyez ici exposé, il y a un nombre de techniques assez différentes, mais si à la place des planches il y avait mes carnets de croquis, en fait vous vous rendriez compte que d'une page sur l'autre il y a toutes sortes de choses dont il m'arrive parfois d'oublier moi-même comment je les ai faites, mais qui consistent à se saisir vraiment de tout et de n'importe quoi pour dessiner.
Même d'un appareil photo, puisque le photographe c'est quand même de vos...
Oui, alors un appareil photo, le fait est que moi je pense n'avoir pratiquement jamais pris de photo de ma vie, ou très très peu. D'ailleurs, vous me donnez l'idée de m'y mettre parce qu'au fond, c'est pas bien. Il faut vraiment tout essayer. C'est un métier d'art, il faut tout essayer. Mais il se trouve que j'ai eu des merveilleux amis photographes. Et en l'occurrence, donc, vous faites allusion à Didier Lefebvre, que j'ai tendrement aimé, qui est un monsieur qui est mort à 49 ans d'un infarctus massif, mais qui a eu le temps auparavant de faire le tour de la Terre et d'en ramener des reportages exemplaires, dont l'un dans l'Afghanistan occupé par les forces soviétiques dans les années 80, que j'ai raconté dans un album. Et là, j'ai mélangé ces photographies à mes dessins pour raconter la mission en question, parce que je trouvais ces photographies magnifiques et pédagogiques, et que j'avais envie qu'elles soient plus vues qu'elles ne l'avaient été.
Et là, on est dans quelque chose qui est presque de l'ordre du spiritisme dans vos bandes dessinées, parce que vous vous faites presque posséder, incarner par une personne ou un personnage, quand ce sont des personnages de fiction, à qui vous donnez vie. Alors ça a été le cas avec Lefebvre, c'est évidemment le cas avec Alan Kopp, l'ami américain, ce vieil homme que vous avez rencontré, vieil homme, sur l'île de Ré, mais que vous avez rendu jeune homme, voire enfant, en racontant sa guerre et son enfance. Comment est-ce qu'on se fait posséder par quelqu'un, mais dans le meilleur sens du terme?
Ah ben, ça s'appelle l'amitié, tout simplement. C'est-à-dire que quand on rencontre quelqu'un selon votre cœur, c'est tout ce qu'on demande. On n'attend qu'une chose, c'est d'être emporté, séduit, et puis de donner tout ce qu'on a de confiance, de sens de la responsabilité à quelqu'un.
Est-ce que vous pourriez dire la même chose pour ce qui est des relations d'amitié de vos personnages, justement? Est-ce que ce sont presque des amis, comme Alan Kopp ou Didier Lefebvre?
Alors, à l'origine de ces histoires, il y a une autre amitié qui est celle que j'entretiens avec les gens qui collaborent avec moi ou avec lesquels je collabore. Donc, Sardine a été créée avec Johan Sfar, Ariol avec Marc Boutavant. Donc, c'est de tendres copains et un des bonheurs de ce boulot, c'est vraiment de le faire avec eux, c'est-à-dire de leur donner quelque chose qui est très intime, très près de l'os, qui sont souvent des souvenirs d'enfance ou des histoires qui me concernent de très près. Et justement, de ne pas les dessiner moi-même, mais de les donner à quelqu'un pour s'émerveiller en fait de l'identité qu'il y a entre des copains, quoi que ce soit moi ou lui qui dessine, au fond ça revient à peu près au même. Si dans les histoires il y a de l'amitié aussi, ça tient au fait que ces histoires que je raconte, aussi bien cette petite série de science-fiction qui s'appelle Sardine de l'espace que Ariol, qui est une histoire beaucoup plus quotidienne, disons, c'est que là aussi, bon, l'amitié est une denrée importante. Sardine, c'est un petit aréopage comme ça de personnages qui font la nique à un grand méchant dictateur général de l'univers, et évidemment ce qui fait la soudure de ces personnages, c'est la complicité qui les anime. Et puis Ariol, l'amitié et les relations, disons, en règle générale, d'affection familiale, etc., c'est vraiment le centre du... C'est le sujet, puisque dans Ariol, il ne se passe rien, au fond. C'est une histoire très, très banale, très quotidienne. Je peux passer 10 pages à raconter, même pas un rhume, mais l'amorce d'un rhume, ou une écorchure au genou. Mais ce qui fait vivre ces pages, c'est les relations interpersonnelles, dans ce qu'elles peuvent avoir parfois évidemment d'un peu musclé. Ariol a des ennemis aussi, il faut qu'il fasse avec à l'école, parce que l'idée consiste pas à bourrer le mou des enfants en leur jouant du pipeau, en leur racontant que la vie est belle. Je leur montre aussi la vie dans ses aspects les plus ingrats, mais je leur raconte aussi qu'on peut se consoler si on a un bon copain comme Ramono le petit cochon, ou si on peut aller pleurer dans le giron de sa maman quand on rentre le soir et qu'elle vous caresse les grandes oreilles en vous préparant une banane écrasée dans du miel.
Il y a du Goscinny dans cette façon d'approcher et de respecter son lecteur enfant.
On a tous en nous quelque chose de Goscinny. Et ça va de soi. Moi, dire de quelqu'un « je lui dois tout », c'est faux, puisqu'on doit aussi beaucoup de choses à beaucoup d'autres gens. Mais il est évident qu'il occupe une telle place dans ma vie, qui est même pas, à vrai dire, qui est aussi une place d'inspirateur, mais qui est avant tout, encore une fois, une place de quelqu'un tendrement aimé. Même si je ne l'ai jamais rencontré, c'est quelqu'un pour qui j'ai une affection. Je m'en rendais compte, on se le disait l'autre jour pendant ce débat, que le simple fait de voir sa bouille dans Paris au moment où cette exposition a été annoncée par voie d'affiche, à chaque station, contrairement aux stations du chemin de croix, ça me faisait du bien de le voir dans Paris. Les réactions que j'ai eues enfant face à son travail, si j'arrivais à les susciter à mon tour chez un jeune lectorat, c'est ce qui pourrait m'arriver de mieux. Donc voilà, ça fait partie évidemment des pères fondateurs et éternels.
Ainsi s'achève Mauvais Jean, consacré ce soir au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, son édition 2018, qui continue d'ailleurs encore dimanche. Et vous pourrez voir, bien sûr, les expositions Tezuka, Alix et Emmanuel Guibert. L'équipe de Mauvais Jean remercie Sylvie Chabroux, Louise Rossignol et M. Viot Coster d'avoir rendu possible ces visites et ces rencontres. Et toute l'équipe de Mauvais Jean, Laurent Polleret, Antoine Guillot et François Angelier vous remercient de nous avoir écoutés. Rendez-vous samedi prochain pour une émission consacrée aux Vespasiennes. Et oui, avec Franck Martin et Sébastien Rutès. D'ici là, bonne nuit à tous.